Bienvenue à Sur la ligne, ce radio-podcast tout tennis cette semaine. La disette des Canadiens se poursuit. Ils peinent à avancer dans les tableaux des grands tournois. On a aussi une surprise de taille chez les hommes. On va en discuter. Isabelle Étier est avec nous. Elle a parlé au préparateur physique de Félix Auger-Aliassime. Et on va prendre des nouvelles de certains de nos meilleurs jeunes joueurs. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
OK, oui.
C'est parti!
Salut, salut! Bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. C'est également diffusé à BPM Sport en association avec Tennis Canada. Messieurs, je suis content de vous retrouver. Hugues, je suis au Montville. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il semble avoir un congrès là, avec des membres des médias. D'ailleurs, je suis un peu surpris que je n'ai pas été invité à ce congrès-là. J'aurais pu refuser l'invitation puisqu'on fait le podcast. Je me suis permis aussi un petit déjeuner. C'était le buffet ce matin. Et honnêtement, je me suis lancé dans le buffet comme si c'était mon anniversaire. Et là, tu sais où je m'en vais, Hugues, parce que non, ce n'est pas mon anniversaire, mais c'est le tien. Joyeux 25e anniversaire en commençant ce podcast. Comment est-ce qu'on se sent quand on approche la trentaine comme ça à grands pas?
Ben, comme je disais dans le chat ce matin, 50 is the new 20, hein, donc je me sens comme ça. Donc ça va à peu près bien. Mais tu n'étais sûrement pas invité, Alex, parce que tu n'es peut-être pas les grands médias en fait qui sont au Montville aujourd'hui.
Je
vous remercie, c'est super gentil, merci.
Ouais, ben, joyeux anniversaire, bonne fête, honnêtement. Je vais te dire, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et puis si je peux être en forme comme toi, dans quelques années, je vais pouvoir dire mission accomplie, ça je te l'ai dit à plus d'une reprise. Nicolas Richard, comment te portes-tu, mon cher ami?
Ça va, mais c'est pas ma fête. Je sais pas si c'était le sujet du jour, là, mais c'est pas mon anniversaire, contrairement à Gligé.
Non, mais tu auras droit à C'est quand ta fête, toi?
C'est le 10 octobre.
OK, alors, tu auras droit quand même à une bonne fête si jamais on est en onde, parce que bon, il y a du tennis rendu là. Et plus si votre fête est au mois de décembre, là, des fois, on fait moins d'épisodes. D'ailleurs, je regardais ça, là, on est déjà le 20e épisode de la saison. Tranquillement, on approche la mi-saison, messieurs, de la quatrième déjà saison ou trois et demi, là, dépendant de comment vous voulez voir, parce que la première saison de moi et Nico a été un peu plus courte. Mais voilà. Alors, joyeux anniversaire encore une fois de plus à Hugues Léger. Et là, si vous le voulez bien, on va parler de tennis puisque c'est notre mandat. Et là, on va commencer. Hugues, je te sens déjà soupirer. Là, et je le comprends d'une certaine manière. Commençons avec les résultats canadiens comme on le fait toujours. On va commencer avec Félix Auger-Aliassime. Dieu sait que je suis son plus grand défenseur, mais... Les victoires commencent à se faire rares, non seulement dans le cas de Félix, mais dans le cas de tous les Canadiens. Alors, commençons avec Félix, ton analyse de cette performance-là et même au-delà de ça, des dernières semaines, je dirais.
Oui, ben, je pense qu'il faut commencer le podcast avec ce constat-là. Hein. La saison de terre battue pour les Canadiens, c'est catastrophique en ce moment. J'ai vraiment pesé mes mots. Ce week-end, j'en parlais avec Paul Oud, justement, sur les ondes du BPM Sport. J'essayais de trouver des côtés positif, à part le retour de Bianca qui nous encourage, bien qu'elle a eu une défaite sévère à son premier match à Rome, 6-0, 6-1. C'est un peu préoccupant ce qui se passe sur la terre battue en ce moment. Des défaites qui s'enchaînent dans les matchs, dans les premiers matchs ou les premiers tours, si on n'a pas de bail. Il y a des questions à se poser là, sur les performances sur terre battue pour les Canadiens en général en ce moment. Félix, sa défaite contre Alexei Popirine m'a soulevé plusieurs questions que j'ai partagées avec vous. J'ai l'impression que Félix arrive pas prêt pour ses matchs. Il a l'air un petit peu à se chercher en début de match, manque d'intention tactique. Encore une fois, moi aussi, hein, je suis un fan de Félix. Évidemment, on est les premiers supporters des joueurs et des joueuses canadiennes. Mais je pense qu'il y a quelques questions à se poser sur l'approche de Félix en ce moment, comment il débute ses tournois et comment il est préparé pour ses matchs.
Ben, tu auras peut-être une partie de la réponse un peu plus tard dans l'épisode parce que Isabelle Etier a parlé avec le préparateur physique. Alors, peut-être qu'elle aura des réponses pour nous, en tout cas, de voir comment ça se passe dans le clan Félix Auger-Aliassime. Bon, Nico, je sais qu'il ne faut pas, comment dire, on ne veut pas euphéminiser les défaites comme un euphémisme, mais il reste que c'est une autre défaite serrée dans le cas de Félix Auger-Aliassime. Puis, bon, c'est un 7-5 contre Papirine au troisième set, contre Lajovic, ça s'est joué au bris d'égalité au troisième set, contre Cirendulo, c'était un 7-5 au deuxième set. T'sais, j'ai l'impression quand même que dans le cas de Félix, ça joue quand même à peu de choses. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans ou tu es un peu comme Hugues? Si je me fie à ton visage, si tu es comme Hugues, tu as de la misère à y trouver du positif là, à cause de la récurrence des défaites rapides. Là.
Ben, c'est vrai que ça se joue à peu de choses, mais les joueurs top 10 parviennent à gagner ces matchs. Et elle est là la différence. Présentement, Félix Auger-Aliassime, comme Hugues l'a dit, semble se chercher. Et c'est étonnant. Souvenez-vous, lors de son début de carrière, puis même il y a deux ans à peine, on se disait à quel point la terre battue pouvait être une arme fatale pour Félix Auger-Aliassime, tellement il était bon, tellement son jeu sciait bien avec cette surface-là. D'autant plus qu'au Centre national, on a des terrains de terre battue, puis on se disait à quel point c'était une innovation parce que nos joueurs, même si on est dans un climat nordique, peuvent profiter des installations de terre battue. Or, quelques années plus tard, avec Félix, avec Denis, avec Laila, avec Bianca, on se rend compte que cet avantage qu'on a publicisé, dont on a parlé abondamment, et peut-être pas aussi névralgique qu'on l'aurait pensé. Fait que c'est inquiétant dans cette mesure-là. Puis oui, pour revenir à Félix, avant d'arriver à Roland-Garros, ça prend du momentum parce que il n'y a personne qui laisse de chance à personne à Roland-Garros. C'est probablement l'un des tournois majeurs les plus durs à gagner, j'ai envie de dire. Parce que
oui, c'est vrai.
Parce que à sa position dans le calendrier, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça pour se pratiquer sur terre battue, même si la saison, contrairement à celle du gazon, est plus longue. Mais c'est un tournoi qui ne pardonne pas. Et avec très peu ou pas de momentum, ce sera extrêmement difficile pour Félix Auger-Aliassime.
Tu sais, quand on regarde ses résultats de la saison passée, Félix Auger-Aliassime ne perd à peu près pas avant les quarts de finale dans la séquence sur terre battue, séquence qui l'a amené à Roland-Garros en jouant tout un match contre Rafael Nadal en ronde des 16. Là. Alors, pour l'instant, je pense que les deux saisons ne se comparent pas. Bon, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a une petite blessure qui se cache? En même temps, il n'a pas joué tant que ça cette année. J'ai l'impression que l'horaire n'est pas un si grand problème que ça dans le cas de Félix Auger-Aliassime. Mais ça augure. Ça, vous voyez comment là, l'approche de Roland Garros? Parce que là, Roland Garros, c'est demain, messieurs. Là. Alors, Hugues, ouais. Tu vois quoi? Est-ce que tu dis, bon, ben, Félix, c'est un homme des grandes occasions, il va rebondir? Ou tu te dis, ben là, je ne suis pas convaincu que j'ai envie de mettre mon argent de son côté, là, présent?
Non, ben, je pense que Nico a touché le bon point, autant pour Félix que pour Léla, que pour un Rafael Nadal. Même si tu n'as pas de momentum avant Roland Garros, c'est pas facile d'arriver sur un tableau de Grand Chelem et de très, très bien performer. Donc, moi, je suis inquiet par le manque de momentum et de séquences positives que nos joueurs et joueuses ont en ce moment ou n'ont pas en ce moment. Je ne m'attends pas à un miracle à Roland-Garros. Hein. Il n'y aura pas de surprise. Ce n'est pas pour rien que Leila Fernandez s'est inscrite dans un W100 cette semaine. Écoutez, c'est plus bas qu'un challenger. Là. Elle a besoin de matchs. Leila, elle a le sérieux de le faire. C'est une excellente décision, je pense, qu'ils ont pris son équipe et elle de jouer cette semaine. C'est à Madrid, ce W100. C'est comme le tournoi qu'il y a eu à Montréal, on se rappelle, il y a quelques semaines, là, où Diallo a remporté, d'ailleurs. Donc, les joueurs ont besoin de confiance, ont besoin de repères avant Roland-Garros. Donc, c'est un petit peu inquiétant.
Mais t'as donné un mot important et je te lance là-dessus, Nico. C'est sûr que là, Félix, même s'il a des repères de l'année passée, même s'il commence à avoir beaucoup d'expérience, il n'arrivera pas avec la confiance dans le tapis à Roland-Garros. Et ça, est-ce que ça peut faire une différence significative selon toi?
Bien, probablement. Puis il y a le fait aussi, souvenez-vous, que Félix a raté un mois d'activité en raison de blessure au genou. Puis on se disait, terre battue, ça ne pardonne pas pour les articulations. Donc, évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux. A-t-il aggravé cette blessure? Est-il moins confortable que ce à quoi il s'attendait? il y a quand même des questions à se poser sur le plan physique et mental. Il en demeure pas moins que je suis convaincu que Félix a les armes qu'il faut pour revenir. Puis tu sais, on sait à quel point Félix, ça peut être un gars de séquence. Hein, qu'il peut exploser à Roland-Garros, battre des têtes de série, battre des top 20. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ça reste un tableau du grand chelem. Ben, c'est vrai que si j'avais un pool à faire, je pense pas qu'il irait vraiment plus loin qu'un quart de finale.
Ben, ce qui serait déjà excellent dans les circonstances, honnêtement. Je pense que s'il fait un quart de finale, on va tous dire mission accomplie dans le contexte. En tout cas, c'est des questions intéressantes que tu poses. On aura peut-être une partie des réponses, comme je le disais tout à l'heure avec Isabelle. Bon, Félix, c'était pas le seul en action là-bas. Bon, du côté des hommes, Chapeau n'était pas là, mais du côté des femmes, Andreescu y était. Elle aussi, c'est une défaite à son premier match, un match de deuxième tour contre Vondroušová. Nico, tu vois ça comment cette défaite-là, moi, écoute, ben, vas-y, puis je vais te dire ce que j'en pense après.
Bien, c'est un match de 55 minutes. Je pense qu'en partant, ça veut tout dire. Là, 6-1, 6-0. Le simple fait qu'elle joue, j'ai encore de la misère à me l'expliquer. À quel point son retour a été rapide, puis à quel point sa réhabilitation s'est faite vraiment de manière assez spectaculaire. On sait que Bianca, c'est parfois très, comment j'allais dire, elle peut être excellente sur terre battue, comme parfois ça peut la couler parce que c'est une surface qui ne scie pas vraiment son style de jeu, qui est plus rapide, qui est plus explosif. Bon, je pense que c'est un match à oublier, là, tout simplement, parce qu'à Roland-Garros, j'ai hâte de voir. On sait que Bianca est capable de briller dans les grandes occasions, mais un match à oublier complètement.
Hugues, est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu es comme Nico puis tu dis, ben, est-ce qu'elle a encore des petites blessures et elle force le jeu puis elle ne joue pas au niveau de ce qu'elle devrait faire?
Ben, comme on disait plus tôt, les joueurs ont besoin de jouer des matchs compétitifs pour être à leur mieux. Donc, évidemment, je ne pense pas que les attentes de Bianca sont très hautes en termes de résultats, mais elle veut jouer des matchs et ça, je trouve ça positif. Donc, je pense que si elle est là, c'est que physiquement, elle se sent capable de jouer. Maintenant, un 6-0, c'est ça. C'est sûr que c'est quand même sévère comme victoire, là. Mais alors, je pense que ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle joue des matchs pour se préparer pour le reste de la saison, tout simplement, là. Puis ça va commencer à se replacer tranquillement. Elle va sûrement mieux faire à Wimbledon, puis elle va être à son mieux, s'il n'y a pas de blessure, évidemment, pour la saison sur deux, qui on sait est sa surface préférée. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour Bianca Andreescu. Je suis content de l'avoir sur le terrain.
C'est vrai que c'est une défaite. Moi, ce qui me fatigue, c'est plus la vitesse, comme tu disais, Nico, la durée du match, parce que Vondroušová, c'est quand même une bonne joueuse sur terre battue. Elle a déjà fait la finale à Roland-Garros il y a quelques années. C'est une ancienne numéro un mondial junior également. Alors, c'est une fille qui peut avoir des armes, là, mais j'aurais peut-être aimé voir Bianca rivaliser un peu plus. Peut-être une mauvaise journée au bureau dans le cas de Bianca Andreescu. Parlant de mauvaise journée au bureau, ça a été le cas également de Leila Annie Fernandez. Elle, c'est même pas une défaite au deuxième tour. C'était également son premier match. Mais Fernandez qui a perdu contre Sasnovich. Commentaire, Nico?
Mais pour Leila, c'est certain qu'elle commence à gagner, mine de rien. On parle beaucoup de Félix, mais Leila, je trouve qu'elle passe un peu sous le radar. On s'entend, c'est pas une grande saison pour Leila. Depuis un an et demi, c'est extrêmement difficile. Elle passe sous le radar, elle glisse au classement. C'est pas évident pour l'ancienne finaliste du US Open en 2021. Oui, évidemment, elle est encore jeune, place au progrès. Mais c'est pas simple pour Leila, mine de rien. On attend encore un bon résultat, un enchaînement de 2-3 victoires consécutives, et c'est pas le cas depuis un sacré bail. Attendons de voir là, d'ici la fin de la saison sur terre battue, mais ça commence à faire longtemps que Leila ne doit pas faire un bon résultat.
Hugues, Leila, elle a passé qu'une seule fois le deuxième tour depuis son premier tournoi.
Oui, oui. Ben, ceci explique cela. C'est pour ça que son équipe la place dans ce W100 à Madrid cette semaine. Moi, je m'attendais à une belle saison de terre battue de Leila pour deux raisons. Performance dominante en Billie Jean King Cup il y a un mois. Je me dis, elle va bâtir sur cette confiance, cette énergie, ce leadership qu'elle a eu durant ce week-end à Vancouver où on a remporté notre match de qualification contre la Belgique. Et oublions pas, il y a un an, elle était quart de finale à Roland-Garros, quart de finaliste. Donc, je me disais, écoute, les planètes s'alignent. Elle revient sur une surface où elle a eu une bonne saison 2022. Mais non, elle est loin de son niveau le plus haut. Et je pense qu'elle est là, et là, ça, c'est mon analyse personnelle, souffre un peu de ce syndrome de la joueuse qui monte rapidement. qui passent un peu sous le radar pour se faufiler en finale d'un grand chelem. Mais les joueuses ont trouvé la recette pour jouer contre Leila Fernandez maintenant. Et c'est dans le camp de Leila maintenant qu'il faut s'ajuster pour revenir au plus haut niveau. Donc, il y a du travail du côté de l'équipe de Leila en ce moment.
Et je suis en train de regarder son tableau de l'année dernière à Roland-Garros. Et je ne vois pas comment la Leila 2023 pourrait répéter ce qu'elle a fait. Écoutez, là, Siniakova, Bencic, Anisimova et en trois manches contre Trevisan.
Elle aurait dû gagner ce match-là. N'oubliez pas, elle s'est blessée durant le match.
Exact, mais Trevisan qui connaissait une séquence complètement dingue. Elle n'a pas été chanceuse, Leila, d'affronter Trevisan, mais je ne vois pas comment la Leila 2023 pourrait répéter ce qu'a fait la Leila 2022. Peut-être que je vais me tromper, puis j'espère me tromper, mais c'est deux Leila complètement différentes en 12 mois à peine.
Isa vient nous envoyer une note pour dire quand même, c'est vrai, en simple, c'est plus compliqué. En double, cela dit, il faut peut-être relativiser les choses. Quand même une demi-finale à Madrid, une finale à Miami, ils avaient perdu contre Coco Gauff. Elle a quand même quelques résultats en double qui peuvent être assez intéressants, ce qui est une bonne nouvelle pour se donner des matchs. Cela dit, c'est vrai qu'en simple, et c'est sa spécialité et c'est ce sur quoi elle veut se concentrer, les résultats n'ont pas été nécessairement au rendez-vous. Alors, est-ce que c'est un copier-coller de ce qu'on s'attend pour Félix dans le cas de Leila, c'est-à-dire on va prendre ce qui arrivera puis on n'a pas vraiment d'attente en termes de résultats rendus là, Hugues?
Bien, je vais rebondir sur une note qu'Isabelle vient de nous mettre dans le chat, puis je suis d'accord. Il y a un challenger à Bordeaux cette semaine, un challenger all-star, Dominic Thiem, Richard Gasquet, qui d'autre est là? On a Wawrinka qui est là. Il y a quatre grands joueurs qui sont à Bordeaux cette semaine. Il y a même une rumeur que Nadal irait jouer dans ce challenger à Bordeaux avant Roland-Garros. Donc, les joueurs qui ont besoin de matchs sont là cette semaine.
C'est un tableau. Lennart Struff est là.
Pardon?
Lennart Struff est là, qui est en finale Lennart il n'y a pas Struff, si longtemps.
Donc, des joueurs qui ont quand même une bonne saison en ce moment. Et Félix aurait peut-être dû aller jouer ce tournoi-là pour se donner justement un petit peu de repère avant Roland-Garros. On ne peut pas reproduire en pratique. Autant on a des bons partenaires d'échange, autant on teste différentes situations. Pour être match tough, pardonnez mon anglais, il faut jouer des matchs. Je pense que ça aurait été une bonne occasion pour Félix, comme pour faire un peu ce que Leila a fait, ce que Leila a fait à Madrid cette semaine, de prendre une wild card pour aller jouer à ce challenger Primrose à Bordeaux, qui semble être un challenger qui est en pleine progression. Donc voilà. Voilà pour Félix. Donc, il va arriver encore une fois sans repère à Roland-Garros. Et j'ai hâte de voir comment, dans quel état d'esprit il va arriver. Mais encore une fois, on le sait, c'est au niveau tactique qu'il semble avoir des problèmes. Son jeu est là, physiquement, il est là, mais on dirait qu'il ne prend pas les bonnes décisions au bon moment sur le terrain. Donc, ça peut se corriger s'il y a un bon support tactique. Espérons que Tony Nadal et le contrat avec Oncle Tony va servir à quelque chose dans les prochaines semaines, parce que c'est maintenant que ça devrait être utile, cette relation-là avec Tony Nadal avant Roland-Garros et pour que ça aide Félix.
Bien, c'est une note vraiment intéressante que vous apportez parce que, bon, je regarde justement le tableau, là, Hugues, et tu as raison. C'est un challenger, mais c'est un tournoi All-Star. De niveau ATP. Là. Oui. Lennart Struff est là, Manarino est là, Albert Ramos-Vignolas est là. Ça, c'est tous des joueurs de circuit régulier.
Wawrinka, Thiem, c'est un super
Gasquet. Gasquet, oui. Andy Murray, nomme-les, là, c'est un tournoi de niveau ATP, assurément. Arthur Hedinesh qui a fait des résultats plus connaître. Benoît Paire aussi, le préféré de Hugues. D'ailleurs, tu me disais que tu voulais pour Tennis Montréal faire des chandails à l'effigie de Benoît Paire, hein? C'est ça que tu me disais?
Bon, on est dans une série de lignes rigolotes sur les T-shirts et disons que Benoît Paire n'est pas à une citation près de nous faire rigoler.
Nico, aurais-tu voulu voir comme les autres, peut-être Félix aller jouer quelques matchs dans un challenger, mais qui est, au final serait évalué comme un ATP? Hein?
Oui.
Où il se repose?
Ben, c'est ce que j'allais dire, oui, mais compte tenu du fait que son genou est peut-être questionnable, je pense que c'est une décision peut-être qui sera salutaire à voir, là, mais je pense qu'ils sont assez bien rodés pour savoir ce que Félix doit faire. Alors, je vais faire une confiance aveugle envers l'équipe de Félix.
Et Nico, pour ajouter au malheur des Canadiens, Dabrowski, qui est une valeur sûre de façon générale en double, elle s'est inclinée au premier tour, elle aussi. Rien ne va pour les Canadiens, visiblement, Nico.
Oui, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de bons résultats de la part de Dabrowski. Souvenez-vous, l'an passé, on parlait même peut-être d'un éventuel premier grand chelem pour elle en double féminin. Et là, ça fait quelques mois maintenant que Dabrowski, c'est plus compliqué. Possiblement que ça va se rétablir. Là, je suis pas inquiet du tout. Dabrowski demeure quand même l'une des 10 meilleures joueuses au monde en double. À surveiller, mais ce sera... Je serais peu heureux de mettre de l'argent ou des pattes d'ours sur les Canadiens à Roland-Garros. Je vais le dire ainsi.
C'est sûr qu'on est un peu plus sévère avec Dabrowski, comme tu le dis, parce qu'elle est une des meilleures joueuses de double au monde. Alors, quand elle ne fait pas une demi-finale ou un quart de finale, on voit ça comme un tournoi un peu plus difficile. Là. Je sais que c'est dans ce sens-là que tu l'entends.
Un peu comme Hugues dans ses tournois, en fait. T'sais, si Hugues nous dit qu'il n'a pas atteint la demi-finale, c'est une semaine ratée. Là.
Exact, exact. Mais tu sais, c'est pas évident de compétitionner chez les 25 ans et moins quand même. Le niveau est fort. Là.
Non, mais si tu voyais ses mollets en short, je changerais d'idée.
Ah, j'aimerais ça que ça puisse être la citation pour faire la promotion du podcast. Ah, wow. Nico, tu as vraiment le sens de la clip. Tu l'as toujours eu. Tu es un maître de la clip. On va te le donner. Messieurs, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Par contre, dans le cas du tennis canadien, on apprenait que peut-être un certain Milos Raonic sera de retour dans la saison sur gazon.
Oui, écoute, j'ai fait quelques vérifications et de sources sûres. Milos est sérieux pour un retour sur gazon dans les prochaines semaines. On a bien hâte de voir ça parce qu'il est disparu du circuit depuis un bon bout de temps, depuis quoi, un an et demi au moins. Il a dit les derniers matchs qu'on l'a vu jouer, il n'avait pas l'air très en forme physiquement. Évidemment, c'est sa meilleure surface. C'est un joueur qui repose beaucoup sur son one-two punch, sur son gros service, évidemment. Le gazon est la surface idéale pour ce style de joueur qui sert beaucoup d'as et qui gagne facilement ses jeux de service. Donc, j'ai bien hâte de voir dans quel état Milos reviendra, mais ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, bon, il prend sa retraite, il arrête, il revient. Et d'avoir des nouvelles de Milos, ça fait plaisir. Et d'avoir une intention pour un retour sur sa meilleure surface, c'est vraiment le fun. J'ai hâte de voir Milos jouer au tennis encore.
Ben, si la fiche que j'ai est à jour, Nico, on ne l'a pas vu depuis Atlanta en 2021. Donc, c'est la fin de la saison 2021. Ça fait un méchant bail qu'on ne l'a pas vu, Nico.
Ouais. Alors, ça va être vraiment intriguant. Puis, je veux dire, les attentes vont être au plus bas. Là. Je pense qu'on peut s'attendre là-dessus. Là. Je ne pense pas qu'on peut se mettre pour gagner Wimbledon cette année. Là. Mais non, ça va être vraiment intéressant. Ça fait plusieurs années, plusieurs mois maintenant qu'on se demande où il est, s'il a l'intention de revenir. Là, bon, Hugues semble confirmer la chose. Ce sera vachement intéressant parce que là, Milos, il est rendu à 32 ans, si je ne me trompe pas. Fait que non, c'est curieux, mais intéressant comme retour, je vais le dire ainsi.
J'ai hâte de voir parce que là, en tout cas, à ma connaissance, il n'aura pas, à moins qu'il était déclaré blessé, là, un classement protégé, alors devra repasser par des petits tournois et se refaire un classement, là, j'ai l'impression, dans le cas de Milos Raonic. Pour terminer, le bloc, c'est sur les Canadiens, messieurs. Bouchard, on en avait parlé la semaine passée, elle avait perdu en qualification, mais j'aurai un challenger, elle, en Italie. En lui souhaitant que... un résultat positif, mais dans le cas de Gilles, on est toujours content de voir qu'elle a toujours cet amour du tennis et qu'elle continue quand même de jouer malgré tout. Ça fait le tour pour le côté canadien. On ne parlera pas trop des autres résultats parce qu'on est encore à peu près à mi-tournoi. Là. On pourra faire le bilan des autres joueurs plus la semaine prochaine. Mais Hugues, je veux t'entendre sur Fabian Marozan. Je vais être bien transparent avec vous. Ce n'est pas un joueur que je connais beaucoup. Je ne pourrais pas faire sa biographie. Mais on n'aura pas le choix de le connaître parce qu'il a battu Carlos Alcaraz aujourd'hui.
Ben, remettons les choses dans le contexte quand même. Cette semaine, Carlos Alcaraz redevient numéro un mondial. Mécaniquement, mathématiquement, il repasse devant Djokovic. Et c'est pleinement mérité vu ses performances des derniers mois. Encore une fois, j'ai parlé de gestion du calendrier dans les dernières semaines. Je pense que c'est exactement ce qui arrive avec Alcaraz. Il y a un moment où tu te dis, OK, est-ce que je mets l'effort physique et mental à deux semaines de Roland-Garros? Il a aligné beaucoup de tennis, Alcaraz. Évidemment, tu veux gagner tes matchs, tu veux gagner des tournois, tu veux tous les gagner, mais son résultat d'aujourd'hui, comme la défaite de Sabalenka dans son premier match du côté féminin, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. C'est des joueurs qui gèrent leur calendrier, qui disent « j'aime mieux relâcher un petit peu pour X, Y raison et arriver à mon plein potentiel, à mon pic pour Roland-Garros ». Donc, j'en fais pas vraiment un cas de cette sortie prématurée d'Alcaraz à Rome aujourd'hui.
En même temps, c'est une défaite pas mal surprenante, Nico, parce que dans le cas de Fabian Marozan, il n'a joué que des Challengers cette année. Il n'a passé aucune qualification dans des tournois de niveau ATP. Écoute, c'est rare que je le dise avec autant de conviction, là, parce que vous connaissez comment je suis nuancé, mais Carlos Alcaraz aurait dû le battre avec une main dans le dos puis peut-être jouer avec la raquette de reculons.
Oui, puis je suis pas aussi optimiste que Hugues par rapport à Alcaraz, puis je vous explique pourquoi. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais que je pense que celui qui ira le plus loin entre Joko et Alcaraz à ce tournoi aura les meilleures chances de gagner Roland-Garros. Bon, là, tout indique que ce sera Joko. D'autant plus qu'Alcaraz...
Ce sera pas Alcaraz, en tout cas.
Exact, exact. Mais souvenez-vous aussi qu'Alcaraz contre Struff, on s'était posé des questions en finale. On se disait, il a l'air dépassé. Il a l'air, c'est rare qu'il semble autant agressé, il semble à bout de ressources, il ne semble pas aussi à l'aise dans ses décisions tactiques, dans la manière d'approcher chaque point, dans ses services notamment. Je ne dis pas qu'Alcaraz va s'effondrer et qu'il est loin de là, entendez-moi bien. Mais je ne suis pas aussi confiant que je l'étais il y a deux semaines pour ce titre à Roland-Garros, parce qu'on s'entend que Barcelone, Madrid, Rome, oui, ce sont des tournois à part entière qui sont en fait, préparatoire à Roland-Garros. Tout ce qu'on fait au cours des dernières semaines, c'est pour préparer ce deuxième tournoi majeur. Ouais. Et là, Alcaraz, oui, Barcelone, évidemment, puis oui, Madrid. Mais Madrid, ça n'a pas été simple. Là, éviction dès son premier match. Et pendant ce temps-là, Joko, lui, va sûrement se rendre très, très loin dans le tableau de Rome. Fait que oui, Alcaraz, je ne suis pas inquiet parce qu'on s'entend que c'est un match, puis c'est une erreur de parcours simplement. Mais dans cette lutte pour le premier rang mondial et pour Roland-Garros, présentement, j'aurais tendance à donner un léger avantage à Joko.
Intéressant. Et pendant ce temps-là, messieurs, Casper Ruud a recommencé à gagner un petit peu. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il est encore dans ce tableau-là. Rune est encore dans ce tableau-là. Du côté des femmes, on a Swiatek et Rybakina. D'ailleurs, pourraient s'affronter ces deux-là. Ça ferait tout un match.
Victory.
Et Ostapenko, entre autres, ta préférée, Nico, est toujours en liste. Mais comme je disais, on ne perdra pas trop de temps sur les résultats des autres joueurs. On est encore à mi-tournoi. On en parlera plus dans le bilan de la semaine prochaine. Oui, Hugues, tu voulais
faire la pause. Pour Joko, la grande question, là, c'est OK, qui va remporter son 23e Grand Chelem dans les prochains mois? C'est ce qui motive Joko. Tout ce qu'il fait quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il mange comme déjeuner, comment il gère son calendrier, c'est pour aller gagner à Roland-Garros cette année. Évidemment qu'il est en haut de l'affiche. Moi, je vous le dis, ça va être Joko, Rune, Alcaraz, Tsitsipas, ça va être dans le mix, mais un tout petit peu en dessous. Donc Djokovic devient très dangereux. Mais là, Djokovic est en train d'écrire l'histoire. Et c'est ça qui le motive dans tout ce qu'il fait en ce moment et comment il gère son calendrier. Et peut-être qu'il va arriver un peu plus frais qu'Alcaraz, justement, à Roland-Garros.
Oh, intéressant. Messieurs, restez là parce qu'après la pause, on a Isabelle Etier qui vient nous parler puisqu'elle a parlé au préparateur physique de Félix Auger-Aliassime. On va peut-être avoir quelques réponses sur les questions qu'on a posées un peu plus tôt dans l'émission. Et Hugues, tu vas nous parler des bourses à Roland-Garros.
L'Hôtel Montville s'associe au Mondial de la bière pour offrir à ses clients des places à un tarif préférentiel. Profitez du plus important festival de bière internationale en Amérique grâce à l'Hôtel Montville. Rendez-vous à la réception de l'hôtel pendant votre séjour. Le restaurant Monem, c'est revenir à l'essence même de l'art de vivre et du bien manger. Une offre qui met le client au centre de l'expérience, qui met de l'avant des cocktails créatifs, des plats généreux, inspirés de la gastronomie française. Venez vite le découvrir. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
Deuxième bloc de l'émission et pour l'occasion, on accueille celle qui nous a apporté des notes particulièrement intéressantes durant le premier bloc dans les coulisses, Isabelle. Isabelle, comment te portes-tu?
Ça va très bien, merci. J'ai pu commencer à jouer au tennis sur mon terrain à Roland-Garros, parce que moi, je l'appelle Roland-Garros, parce que c'est de la terre battue, mais tu sais, c'est dark true. Donc, déjà là, pouvoir jouer à tous les jours, messieurs, préparez-vous, je vais être prête pour le tournoi.
Commences-tu à respirer un petit peu, Isa? Parce que bon, je sais que tu as beaucoup de projets avec ton podcast Femmes d'Hockey. Tu as toutes sortes de projets spéciaux. Tu étais aussi dans les séries éliminatoires dans le hockey également parce que tu travailles avec la Ligue M2-3A. Est-ce que ça commence à se calmer un peu? Est-ce que tu peux respirer un peu plus ou c'est toujours la pédale dans le tapis?
Ben, tu sais, vous me connaissez, je suis une fille de sport. Hein. Bon, le hockey fait partie de mon sang, le tennis, le golf. J'aime tous les sports et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi j'ai décidé, en fait, j'ai demandé à pouvoir parler à Nicolas Perrotte, qui est le préparateur physique de Félix Auger-Aliassime. Je vous explique, sur Femmes d'Hockey, il y a aussi plein de chroniques qu'on qu'on met pour aider les gens. Les parents, les mamans ou même les athlètes. Et bon, souvent, sur le balado, les athlètes viennent me dire « c'est important de faire d'autres sports ». Fait que je voulais savoir, est-ce qu'un joueur de hockey qui se met au tennis l'été, ça peut être bon pour lui? Et vice-versa. Donc, je me suis dit, qui de mieux que Nicolas, celui qui, quand même, qui prépare physiquement la 10e tête raquette mondiale, pour nous répondre à cette question. Puis vous allez voir, c'est vraiment intéressant ce qu'il m'a dit parce que, en fait... Oui, Félix se porte bien. Là. Bon, on n'a pas vraiment parlé de Félix aujourd'hui, mais on a parlé de comment ça a commencé, sa relation avec Félix, quand il est arrivé avec Tennis Canada, quand Félix avait 15 ans. Je vous rappelle, je vais juste vous expliquer un peu c'est qui Nicolas. Dans le fond, Nicolas, c'est quelqu'un qui a toujours voulu travailler dans le sport, développer les humains. Il est né dans une famille sportive en France et où toutes les occasions étaient bonnes pour bouger. Pour lui, c'était vraiment important. C'est comme une vocation pour lui de dire « je veux transmettre mes valeurs à travers le sport ». Fait que c'était un joueur de tennis qui se débrouillait très bien, mais lui, plutôt que rêver de devenir un joueur professionnel, il avait envie d'enseigner. Fait qu'il est devenu... professeur d'éducation physique en France. Puis à un moment donné, il s'est retrouvé dans une situation où il a pu enseigner aux meilleurs joueurs, aux meilleurs juniors en France. Et là, il a été engagé par la Fédération française de tennis. Puis finalement, bon, Frédéric l'a amené au Canada. Donc, Frédéric qui est l'entraîneur de Félix. Il est arrivé au Canada en 2015. Puis depuis ce temps-là, il s'occupe du développement, de préparer physiquement notre Félix. Puis ce que j'aime dans ce qu'il m'a raconté, c'est quand le sport est différent. Les filles, les garçons, tu ne développes pas au même rythme et c'est important, le schéma corporel n'est pas le même. Fait qu'il est venu vraiment me raconter comment c'est important de développer chaque maillon qui soit assez fort, mais à la base, c'est le corps. Puis que tu fasses peu importe le sport que tu fais. Bon, là, on parle de tennis ici, mais qu'on parle de hockey, qu'on fasse du golf, qu'on joue au football, tu te dois de développer ce qu'on appelle toute la région autour du bassin. Puis après ça, bien aussi, tout ce qui est stabilité pour les pieds. Puis Dieu sait qu'on sait qu'au tennis, on a besoin de stabilité, mais au hockey aussi. Fait que je trouvais ça intéressant comment qu'il m'a parlé de tout ça, tu sais, d'avoir des réactions, d'être actif, de savoir changer de direction rapidement, de changer aussi ta pensée. Puis là, c'est son manque de capacité de s'adapter en match au niveau tactique, bien, ça peut venir aussi dans des entraînements qu'il peut faire au niveau physique ou en faisant différents sports. Peut-être que Félix, il faudrait qu'il commence à jouer au hockey. Je ne sais pas, je dis ça de même, là, je vous fais rire les gars. Mais sincèrement, je trouvais ça très intéressant de voir comment lui, il aborde les trois saisons lorsque tu fais du sport, de la saison de repos. Fait que pour les joueurs de hockey, présentement, c'est leur saison. Là, nous, au niveau tennis, on est plus en compétition, mais il y a le repos, la préparation et la compétition. Et quand on regarde au tennis, ben il n'y a pas une grande saison de préparation et de repos quand de on repos, regarde. Mais pour les joueurs de tennis amateurs, ben ils ont eu la préparation durant l'hiver et là, on peut rentrer dans la saison de compétition durant l'été là, si on commence à aller jouer avec les gens. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, tout ce qui m'a ramené, comme quoi c'est important de développer un athlète pour qu'il devienne efficient. Là, tu dis, OK, mais ça, c'est des concepts. Mais efficience, c'est-à-dire que tu veux que ton athlète soit efficace en dépensant le moins d'énergie possible. Et moi, de regarder ça, ça m'a fait vraiment réaliser quand je regarde maintenant des parties de tennis chez les filles, plus premier set, sont déjà essoufflés, sont à bout de souffle. Tu dis, bien, voyons donc. On aime mieux voir un joueur être capable d'être là sur le long terme. Puis c'est là où ce qu'on va voir aussi dans les grands chelems pour les du côté des garçons. On sait que c'est en 3-7 que tu dois gagner. Des fois, ça va qu'à 5-7. Donc, cette espèce de capacité de gérer sa capacité physique, son endurance. C'est important de faire d'autres sports et c'est comme ça que tu apprends. Les grands champions, c'est qu'ils savent s'adapter à des occasions différentes. Ils ont cette capacité d'adaptation extraordinaire. Et là, tu sais, puis là, je fais un petit parallèle avec notre Félix présentement. Et c'est le temps que Félix nous montre vraiment très, très efficace. Parce que c'était vraiment une belle rencontre. Moi, je suis sortie de là vraiment comme, OK, je vais aller m'entraîner avec lui. Bon, je serai jamais une championne, on s'entend, là. Je n'ai pas 25 ans, moi, comme Hugues. Donc, il faut absolument que je me mette à développer physiquement encore plus le en dehors du court. Mais ce qu'il me disait aussi, c'est qu'à travers les différentes phases, ce qui est intéressant, c'est que autant tu vas avoir des entraînements qui sont loin du terrain, maintenant, tu vas faire des entraînements qui vont être sur le terrain, qui vont combiner aussi du tactique avec la préparation. Puis après ça, tu es vraiment sur le terrain. Fait qu'il y a vraiment différentes étapes. Il y a des schémas. Il s'assure vraiment d'aller en profondeur. Fait que moi, quand je l'entends, je me dis que Félix est en bonne main. Hein? Je trouve qu'il connaît bien ces choses et il m'inspire confiance. Il me parle. L'équilibre, la force, l'endurance, la vitesse, l'agilité, la flexibilité, ce sont tous des maillons hyper importants qu'on se doit vraiment de développer chacun vraiment tu ne peux pas être bon dans un élément.
Oups, tu coupes un
vraiment
peu,
encourager, fait que les forces motrices sont importantes. M'entends-tu?
Oui. Tu coupes un peu, Isa, là, juste reprendre. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Puis quand tu parlais d'efficacité puis d'efficience, souvent la blague dans le cas de Roger Federer, c'est qu'il gagnait ses matchs sans même suer. Il était peut-être un des maîtres à faire ça. Et Félix a certainement des habiletés qui pourraient, sans dire qu'il va être un Federer, trouver des situations similaires. Et quand on regarde un gars comme Novak Djokovic, bien, il a déjà dit souvent que quand il a changé de la façon de s'entraîner, quand il a changé sa façon de manger, sa carrière a explosé. Il s'est placé parmi les grands. Alors, est-ce que cette entrevue-là, elle est disponible, Isa, sur toutes tes plateformes? On peut trouver ça où?
Qui est disponible dès ce soir sur le site femmes.hockey, donc femmes au singulier.hockey, pour aller un peu plus. Mais la grande leçon, messieurs, c'est l'important, c'est d'avoir du plaisir. Peu importe que tu sois un athlète amateur ou élite, on joue au tennis, on joue au hockey, donc, le plaisir est d'abord et avant tout l'ingrédient secret de toute performance.
Isa, avant de te laisser aller, je veux que tu me parles d'un projet parce qu'on a travaillé ensemble sur ce projet-là. T'as monté un beau show de télé sur un événement qui était incroyable, le hockey pour tous. C'était présenté par la Banque Scotia. Tu veux-tu en glisser un mot parce que je sais que tu en as fait pas mal la promotion et que tu as travaillé très, très fort sur ce projet-là.
Ben, tu as travaillé très fort toi aussi, Alex, et on remercie. Ça a été un beau. Mais tu sais, je peux en parler, là, on parle de beaucoup d'équité, de diversité. On veut amener les jeunes à jouer autant au tennis qu'au hockey. Ça fait partie des choses qu'on veut mettre de l'avant. Et bon, j'ai participé à cette journée de la fête du hockey féminin de la Banque Scotia. Et si vous avez envie de voir, si vous avez envie de vous tenter, moi, à chaque fois que je regarde, j'ai des larmes à l'œil. Donc, je vous le dis, français en anglais, donc c'est de quoi de vraiment intéressant. Ça va certainement vous donner envie de chausser les patins. En tout cas, si ça ne vous donne pas envie, je ne sais pas ce qui va vous donner envie de le faire puis d'amener vos jeunes filles essayer de jouer au hockey.
Ouais, c'est un événement où il y avait 300 jeunes filles là, qui étaient invitées par, entre autres, la Banque Scotia et avaient la chance de s'entraîner, avoir des pratiques, des conférences avec des athlètes professionnels féminins, des anciens du Canadien également. C'était vraiment, vraiment une belle journée, puis c'était pour tous les niveaux également. Là. Alors, je trouve que c'est un événement qui valait la peine d'être souligné, puis c'est bien que tu aies pu mettre, comment dire, l'importance, montrer toute l'importance d'une journée comme ça et d'en faire non seulement un reportage, mais une émission de télé que tu as menée de main de maître. Alors, bravo pour ça et j'invite les gens à aller le consulter sur tes plateformes également. Isa, merci infiniment pour ta présence une fois de plus avec nous. Et puis, je rappelle que si vous voulez entendre l'entrevue intégrale avec le préparateur physique de Félix Auger-Aliassime, bien, c'est disponible sur les plateformes d'Isabelle Etier. Merci infiniment, Isa. Et puis, bien, tu repasses nous voir quand tu veux.
Avec plaisir, messieurs.
Bye-bye. Hugues, autre sujet avant qu'on aille à la pause. Bon, on a une idée des bourses à Roland-Garros. C'est oui. Toujours un sujet qui fait jaser pas mal. Tu as un update pour nous là-dessus?
Oui, ça a été annoncé à la fin de la semaine dernière. Bourse record de 49,6 millions d'euros, plus 12 % par rapport à l'an passé. Quelques faits notoires, 69 000 pour les perdants du premier tour, c'est plus 10 %. 2 300 000 bourses équivalentes aux hommes et aux femmes, comme c'est le cas depuis plusieurs années. C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi Roland Garros se porte bien financièrement? C'est en partie, comme c'est souvent le cas, à cause des droits télé qu'ils ont très bien négociés. Ils ont un nouveau joueur dans le mix depuis 2021 qui est Amazon Prime Vidéo qui diffuse la plupart des sessions de soir. Ils passent
d'ailleurs, ça a fait jaser l'année passée, ça.
Oh que oui, parce qu'historiquement, c'est le diffuseur public, France Télévisions, qui diffusait toutes les séances. Maintenant, la Fédération française de tennis a partagé, évidemment, pour avoir plus de revenus, sa vente de droits entre France Télévisions et Amazon Prime Vidéo, qui passera à 11 sessions de soir cette année. Donc, un contrat qui est étendu jusqu'en 2027. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté là, pour Amazon Prime Vidéo. C'était 2021-2023, leur entente. Ils ont annoncé par le fait même qu'ils passaient jusqu'en 2027. Donc, 49,6 millions d'euros en bourse à Roland-Garros cette année.
T'attends-tu à ce que la vague, je ne sais pas si controversée, le bon mot, soit passée? Parce que, bon, le fait qu'Amazon Prime soit rentré là-dedans, ce qui a fait jaser l'année passée, c'est qu'on a intégré les séances de soir pour viser le marché américain pour être un peu plus prime time. Parce qu'évidemment, les matchs en Europe, parfois, ça commence à 7 heures le matin. Là. Alors, pour l'Américain moyen, ce n'est pas évident. Est-ce que tu penses qu'on va avoir encore des controverses à ce niveau-là où la pilule est passée d'une certaine manière?
Ben, Amélie Mauresmo a déjà annoncé que les night sessions commenceraient un petit peu plus tôt. Donc, les matchs qui se terminent à 1h et plus du matin. Souvent, la première semaine à Roland-Garros, à Paris, est quand même assez frisquette le soir. Donc, c'est humide et un peu frais. Donc, pour les joueurs et joueuses, c'était pas super. Donc, ils ont déjà prévu qu'ils commenceraient les matchs plus tôt. Mais ce qui fait grincer des dents, Alex, c'est que ils gardent les meilleurs matchs pour les sessions de soir, que ce soit hommes et femmes. Et d'ailleurs, il y avait une plainte qu'il y avait eu trop d'hommes, trop matchs d'hommes qui étaient en night session en 2022. Donc, je pense qu'ils vont remédier à ça cette année. C'est garanti. Plus d'équité sur les matchs vedettes que côté féminin qui vont être diffusés le soir. Mais je pense que ça va faire un petit peu jaser encore. Mais évidemment, c'est pour le marché américain. C'est leur marché de croissance aussi. Donc, ils ont déplacé, évidemment, les heures de diffusion vers les matchs vedettes plus tard en journée pour servir le marché américain et canadien, évidemment, ça nous sert, nous aussi.
Bien, évidemment, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis peut-être un peu biaisé dans cette question-là parce que j'aime bien avoir des matchs un peu plus tard. Et honnêtement, je trouve pas ça laid d'avoir des matchs sous les réflecteurs sur terre battue à Roland-Garros.
C'est sûr que c'est beau. C'est un bon show, mais c'est pour les joueurs et les joueuses que c'est plus problématique. Pour les spectateurs, je suis d'accord avec toi que le fan experience au niveau de la télé, c'est plus intéressant.
Et la question des horaires a fait jaser il n'y a pas si longtemps à Madrid également. Là, les filles se sont plaintes à Feliciano Lopez, qui était le directeur du tournoi. Là. Nico, est-ce que tu voulais ajouter sur ce dossier-là? Tu penses quoi, toi, des sessions de soir? Est-ce que j'imagine que ça fait ton affaire, étant donné qu'on est du côté nord-américain, ou tu préfères écouter du tennis? Mais remarque, toi, tu écoutes du ski alpin à 5h30 le matin, fait qu'écouter du tennis à 7h, ça ne doit pas trop te déranger.
Ouais, ben c'est ce que j'allais dire. T'sais, je trouve qu'il y a un charme à ces tournois internationaux qui fait que on est toujours en adaptation. Tu sais, le US Open, je pense qu'on a tous souvenir d'un match ou deux qui s'est terminé à 2h du matin. Puis c'est le genre de match qu'on aime voir et qu'on aime revoir parce que c'est, pendant deux semaines, le tournoi que tout le monde écoute, où tout le monde est réuni. Fait que moi, ça ne me dérange pas tant qu'il y ait des matchs en soirée à Roland-Garros parce que de toute façon, je pense qu'on ne peut pas tous les voir. Tu sais, on a beau être des fans du tennis, mais je pense que nos horaires chargés puis en tant que travailleur, ben, font en sorte qu'on ne peut pas tout regarder. Mais c'est vrai que pour les joueurs et les joueuses, c'est peut-être pas l'idéal, mais en même temps, je me dis, le tournoi est fait ainsi depuis bon nombre d'années, depuis une centaine d'années. D'autres joueurs sont passés par là. Pourquoi nous, il faudrait changer la donne? T'sais, fait que oui, je comprends qu'il y a peut-être des questions à se poser, mais j'aime, vous le savez, ce côté traditionnel de le tournoi est fait comme ça. Les légendes ont joué dans ce genre de conditions. Continuons comme ça. T'sais, mais ça, je sais que c'est. Je suis peut-être seul.
Ça me fait toujours rire à quel point Nico est le plus jeune sur cette émission-là et le plus puriste de la conservateur de la gang.
N'oubliez pas que le concept de breakfast at Wimbledon a été inventé justement pour ça, pour que les gens se lèvent à 7h, 8h pour écouter le match. C'était NBC qui diffusait, et qui diffusait Roland-Garros aussi. Il était très nerveux des codes d'écoute du matin. Donc, il a fallu qu'il monte un petit concept autour de ça. Et je dirais que c'est l'évolution commerciale qu'on voit en ce moment avec Amazon Prime Video. C'est l'évolution des plateformes médias, évidemment, qui sont disponibles, qui qui provoque ces nouveaux segments d'écoute, ces nouveaux créneaux d'écoute. On ne pourra pas reculer face à ça. C'est des nouveaux revenus qui arrivent et il faut composer avec.
Mais il y a aussi le fait que je pense que dans tous les sports, puis là, je suis peut-être encore tout seul à ma gang, là, mais je pense qu'il faut prioriser l'aspect local. C'est-à-dire que le tournoi est en France, priorisons le créneau français. Même chose au ski alpin. La Coupe du Monde est en Finlande. Priorisons le marché finlandais.
C'est aux autres. Formule 1, c'est la même. En Formule 1, c'est la même
chose également. On nord-américanise un peu trop la diffusion d'événements sportifs parce qu'on n'est pas les seuls. T'sais, les gens en France ne doivent pas payer le fait que nous, on est peut-être décalés parce que le tournoi se passe chez eux. Fait que un peu comme en Australie, t'sais, je pense que c'est le meilleur exemple. Priorisons le marché australien, puis c'est à nous s'adapter, tu sais.
Mais l'affaire, Nico, c'est que si tu as un gros commanditaire comme Amazon qui vient payer et qui se dit « Moi, je veux développer encore plus le marché américain. »
C'est
ça. C'est pas pour rien qu'en F1, tu es rendu avec 3 courses aux États-Unis parce que Liberty Media a acheté le circuit. Je suis pas sûr que si tu avais, propriétaire asiatique, tu n'aurais peut-être pas autant de courses aux États-Unis.
On est d'accord là-dessus, il en demeure pas moins que si je suis un Australien, j'aime mieux que le gros match sur le central, le dernier de la journée, soit à 8 heures le soir pour mon heure plutôt que midi parce que ça agence mieux les horaires de New York.
Tu sais, Nico, je vais être honnête avec toi d'un point de vue personnel. Et là, j'enlève mon chapeau business. D'un point de vue personnel, ça me plaît ce petit côté traditionnel de me lever tôt pour voir les matchs à Roland-Garros.
Mimosa, déjeuner.
Et à Wimbledon, puis faire un petit événement autour de ça. Ça fait partie du plaisir de l'événement.
L'événement chez les légers, c'est Mimosa à Wimbledon.
Si tu veux, avec fraises et crème, si on peut se le permettre.
Voilà. Et si on va faire une courte pause et au retour, on accueille Abraham Santerre. On va prendre des nouvelles de nos jeunes espoirs du tennis.
L'Hôtel Montville s'associe au Mondial de la bière pour offrir à ses clients des places à un tarif préférentiel. Profitez du plus important festival de bière internationale en Amérique grâce à l'Hôtel Montville. Rendez-vous à la réception de l'hôtel pendant votre séjour. Le restaurant Monem, c'est revenir à l'essence même de l'art de vivre et du bien manger. Une offre qui met le client au centre de l'expérience, qui met de l'avant des cocktails créatifs, des plats généreux, inspirés de la gastronomie française. Venez vite le découvrir. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
Dernier bloc de l'émission et pour l'occasion, on accueille, et je vais utiliser volontairement le pléonasme, la nouvelle recrue de tennis Canada, celui qui a été formé à l'école sur la ligne, Abraham Santerre. Abraham, merci de te joindre à nous. Comment te portes-tu, mon cher ami? Il va falloir que tu démutes ton micro si tu veux nous jaser.
C'est-tu ma raquette brisée qui est dans le fond de sa chambre?
Ça se pourrait.
Oui, je l'ai gardé en souvenir, Nico. je suis super content d'être là, les gars. Moi, ça va super bien. Là. Terminé 4e session au cégep en journalisme. J'ai 2 années sur 3 de fête. Donc,
bravo.
L'été s'amorce.
Il en reste moins qu'il en restait, mon cher ami. Félicitations une fois de plus pour ton poste à Tennis Canada. Tu travailleras aux médias sociaux là-bas, entre autres. Et puis, on n'a pas de doute que tu feras de l'excellent travail parce que tu en fais de l'excellent pour nous. Et puis, on est bien fiers de toi. Mais aujourd'hui, on ne t'accueille pas pour te lancer des fleurs à l'infini, mais pour que tu puisses nous donner un petit résumé de ce qui se passe avec les autres joueurs canadiens parce qu'on se concentre souvent sur les grandes vedettes. Mais j'aimerais ça qu'on parle plus souvent des joueurs qu'on suit quand même du coin d'œil, les gars comme Alexis Galarno, Gabriel Diallo et certains des joueurs qui sont encore d'âge junior. Je te laisse choisir. Par qui veux-tu commencer veux-tu faire ton petit résumé?
J'en ai sélectionné quelques-uns là, parce qu'il y en a qui ne sont pas très actifs en ce moment, mais je tenais à parler de Gabriel Diallo parce qu'en ce moment, il est à son meilleur classement en carrière. Il est au prochain classement qui va sortir, donc lundi prochain. Il va atteindre la place de 143e. Donc, c'est excellent. On suit la progression. On se rappelle, il a gagné il y a quelques temps déjà le tournoi ITF à Montréal. L'an dernier, il a gagné à Granby aussi. Donc, c'est une belle progression.
À 143e mondial, là, il se rapproche tranquillement des tableaux du Grand Chelem.
Exactement.
On n'est vraiment pas loin. Là,
pour dans les tableaux Challenger et dans les têtes de série.
Donc, oui, et il fait les cut-off pour les qualifs, si je ne me trompe pas, pour les grands chelems à 140.
Wow, fait que ouais. Son classement devrait monter assez rapidement dans les prochains mois, puisqu'il a virtuellement pas de points à défendre, puisque c'est sa première année sur le circuit professionnel. Là. Il jouait dans les collèges américains l'année passée.
Il jouait justement en fin de semaine en Corée du Sud. Il s'est rendu jusqu'à la demi-finale, si je ne me trompe pas. Là. Il a perdu samedi contre un joueur quand même qu'on connaît, là, Max Purcell, l'Australien. Ouais. Puis c'était 6-4, 7-5. Donc, il enchaîne des bons résultats, des quarts de finale, demi-finale dernièrement. Donc, il va arriver, je pense, en pleine forme à Toronto cet été. Oui?
J'allais dire joueur suivant.
Oui, bien, Alexis Gallarneau, on ne pouvait pas passer à côté de lui. C'est quand même notre favori. En ce moment, il est 256e au classement. Puis son dernier tournoi, là, ça remonte à la semaine du 25 avril. Il y avait eu toute une bagarre là, contre un Français, Emery, qui a perdu 6-7, 7-6, 7-6. J'ai pas vu ça, le match a duré combien de temps, mais c'était toute une bagarre. Son dernier bon résultat, là, il enchaîne beaucoup de challengers, des défaites difficiles, là, souvent en trois manches.
On en parlait la semaine passée avec lui, à quel point... il n'y a pas beaucoup de victoires, mais lui aussi, ça joue à peu de choses. Il en parlait lui aussi, là.
Oui, exactement. Par la suite, on va aller du côté féminin parce que cette semaine, chez les hommes, là, il n'y a pas beaucoup d'action dans les tournois. On va parler de Victoria Mboko. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. En ce moment, là, elle pointe à la 605e position mondiale, mais on se souvient, elle est toute jeune, là, elle promet beaucoup. Puis son dernier bon résultat, là, c'était l'été passé au US Open chez les juniors. Là, elle s'était rendue loin. Elle avait eu 4 victoires dans le tournoi. Et elle a joué justement aujourd'hui, ce matin, elle a perdu en Autriche, dans un tournoi pro en Autriche. Ouais. Donc, elle commence à enchaîner les autres résultats. Par la suite, Kayla Cross aussi, elle pointe à la 608e position, là, c'est tout près de Victoria Mboko. Elle a aussi des bons résultats. Là. Aussi, c'était en mars, un tournoi W25 à Toronto. Elle avait eu 2 victoires, notamment contre Ariane Artono, qui est une figure dans les tournois de ce type-là. Et finalement, rapidement, Catherine Sebov, on la connaît tous, elle avait été finaliste à Saguenay l'an passé. Et elle a fait des bons résultats dernièrement parce qu'elle s'était qualifiée à Madrid. Et elle s'est inclinée en qualification à Rome. Mais tout ça, ça l'amène à la 143e position au classement féminin. C'est pas son meilleur classement, mais elle se rattrape. Puis cette semaine, elle va jouer un WTA 125 à Paris, en France. Donc, ça promet.
Bien, merci beaucoup pour ce résumé-là. Évidemment, on veut faire un effort pour parler de tous les joueurs canadiens, puis on est parfois limité dans le temps. Merci beaucoup, Aram, pour ce résumé-là. Dernière question avant de vous laisser aller. Va-t-on revoir rapidement ou prochainement, ou va-t-on revoir point Raphaël Nadal? Hugues, en 2 minutes.
Nadal qui est sorti en douleur de son entraînement mercredi dernier, ça augure pas très bien. Écoute, il mise tout pour être là à Roland-Garros, mais en ce moment, je dirais que ce qu'on voit en tout cas de son entraînement qui a lieu chez lui à son académie à Mallorca en ce moment est pas très encourageant. Donc, on se croise les doigts, mais ça va être difficile, je crois, pour Roland-Garros avec Nadal.
Moi, je pense qu'il va être là. Il a déjà gagné des tas. Il a gagné Roland-Garros alors qu'il y avait peu un muscle qui fonctionnait comme du monde. Alors, je pense qu'il va être là cette année en dépit de.
On lui souhaite.
On lui souhaite. Nico, est-ce que tu le vois disputer Roland-Garros ou est-ce que ça commence à sentir plus que la fin dans le cas de Rafa?
Il sera à Roland-Garros et il annoncera sa retraite au terme de Roland-Garros.
Oui, c'était une des prédictions qu'on avait fait en début de saison. C'est complet pour ce nouvel épisode de Sur la ligne. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, qu'on est diffusé à BPM Sport tout le lundi soir et en rediffusion le week-end également. Je remercie Isabelle Étier. Je vous rappelle que vous pouvez aller écouter l'entrevue avec le préparateur physique de Félix Auger-Aliassime sur ces plateformes. Merci, Abraham, pour ton résumé sur les Canadiens. Et bonne fête à nouveau, Hugues Léger et Nico. Comme c'est la tradition, je te donne ton lourd mandat de terminer l'épisode.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Eber. Bon tennis, tout le monde.